Merci Sabrina, notre invitée à 11h11 exactement, le docteur Amir Kadir. Docteur Kadir, bonjour.
Bonjour Paul.
J'aimerais aborder la question justement de l'immunité. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé dit ce matin, c'est une des manchettes de ce samedi, attention, il n'est pas garanti, il n'est pas prouvé qu'après avoir eu la COVID-19, vous serez immunisé et non pas dangereux. Vous pourrez peut-être retester positif.
Oui, et on l'a remarqué à plusieurs reprises déjà, il y a plusieurs articles qui ont publié des cas. Donc, il faut être prudent pour la raison suivante. D'abord, les coronavirus qu'on connaissait avant, ce qu'on appelle les coronavirus saisonniers, les quatre premiers, ne confèrent pas d'immunité durable. C'est des immunités qui sont partielles, si on se fie à l'expérience passée. Ça peut durer une saison ou deux, et vraisemblablement parce qu'on en a fait déjà plusieurs. Autrement dit, un peu comme l'influenza qu'abordait votre collègue tout à l'heure en disant ben, « on attrape la grippe régulièrement, pourquoi est-ce qu'on serait immunisé contre le coronavirus ?» C'est une excellente question. Cependant, on pense que c'est l'exposition répétée à des souches qui sont un peu apparentées, parce que d'une saison à l'autre, l'influenza auquel on est exposé est différente de l'influenza de la saison précédente ou des saisons précédentes. Donc, il est normal que notre système n'ait pas tous les anticorps appropriés, mais on a quand même un souvenir de base, une immunité relative qui fait que les infections comme le coronavirus saisonnier ne sont pas aussi intenses et importantes, vraisemblablement, que le coronavirus nouveau qui se propage pour la première fois et pour lequel on n'a aucun souvenir immunitaire.
Mais
donc,
ça,
c'est toutes les hypothèses qui sont émises pour expliquer pourquoi il faut rester prudent.
Ben voilà. Alors donc, tout ça se fait, Amir Kadir, la prudence, dans un contexte mondial de réouverture, de redémarrage, de déconfinement. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, on dit la société doit reprendre, ce qui est tout à fait normal, mais en même temps, il y a des consignes qu'on devra respecter qui fait que le monde ne reviendra pas d'un coup comme il était au début mars.
Oui, ben, je pense que comme dans tout inconnu, c'est un calcul risque-bénéfice. C'est sûr qu'on sait que... Un vaccin efficace, si jamais on en trouve, va prendre du temps à être développé, à être adéquatement testé pour qu'on puisse l'utiliser à large échelle. Ensuite, il faudra quand même le produire sur dans des dimensions et dans des nombres jamais égalés, sans doute en si peu de temps, parce qu'il y a des milliards littéralement de gens qui en auront besoin. Donc, est-ce que c'est viable qu'on interrompe toutes les activités? Je pense que poser la question. Et y répondre, je pense que personne ne croit que c'est viable de rester en état total d'inactivité pendant 12 à 18 mois. Même sur le plan médical, sur le plan sanitaire, c'est pas viable, c'est pas tolérable parce qu'on a des gens qui souffrent d'autres maladies. Il faut reprendre les activités pour pouvoir s'occuper de tout ce monde-là. Donc, c'est pour ça que c'est logique de dire, ben, de manière mesurée, en calculant les risques, en ciblant d'abord les secteurs de la population les moins risqués, on va mettre en place une série d'activités. On va commencer, on va contrôler par essai-erreur, parce que personne n'a la recette. Hein. La recette absolue, dans ces cas-là, c'est un peu comme la Nouvelle-Zélande. C'est que devant un inconnu, on agit avec la plus grande prudence, c'est ce qu'ils ont fait, puis on s'en rend compte à quel point c'est bien. Mais à partir de là, il y a quand même des choses qu'on peut se dire. On sait maintenant, il y a assez de cas dans le monde pour dire les enfants sont immunisés en quelque sorte contre la forme sévère de la maladie.
C'est quand même incroyable. C'est quand même, on dirait que c'est un coronavirus démographique, dans le sens que les enfants traversent ça comme si c'était rien, ou presque. Bon, il y a eu peut-être quelques exceptions, c'est malheureux, mais quand même, c'est minime. Et puis, vous avez ces gens de 60, 70 ans et plus qui sont vraiment à risque. C'est incroyable.
Ouais. Ben, en fait, oui et non, dans le sens que on le comprend... un peu, parce que d'abord, il y a une immunité qui est peut-être immature, mais en même temps, en étant immature, c'est-à-dire la réponse inflammatoire que le système semble démontrer qui est très dévastatrice chez les personnes plus âgées, cette réponse immunitaire semble moins intense chez les enfants. De l'autre côté, les fonctions que sont le cœur, les poumons, les reins, le foie sont toutes fraîches, sont en excellente santé, n'ont pas connu les dommages qu'ont le cœur et les reins et les poumons des personnes plus âgées. Donc, tout compte fait, le système à la fois de moins une tempête inflammatoire qui l'attaque, puis de l'autre côté, le cœur peut mieux, je parle du cœur comme exemple des autres fonctions physiologiques, mieux capable de surmonter les difficultés. Donc, je pense que ça s'explique pour le moment de cette manière, et tant mieux. Pour en venir au fait qu'on disait, c'est donc une opportunité pour recommencer un certain nombre d'activités, notamment, ça semble vraiment la clé dans la question de l'ouverture de l'école dans toutes les sociétés, semble être le passage critique qu'on suppute et qu'on se demande est-ce qu'il faut le passer ou pas. Mais il va falloir demander qu'on soit suivi et qu'on le fasse de la bonne manière. Il y a des méthodes en Suède ou dans d'autres pays, on divise les classes en deux, on étale les jours de la semaine ou on les divise les jours de la semaine en des classes pour pouvoir adéquatement, sur les lieux, mettre en place des mesures de distanciation physique et de barrières à la contagion.
Alors, docteur Cazier, je voudrais vous amener maintenant sur... j'ai soumis d'ailleurs cette même question au docteur Quash tout à l'heure. Êtes-vous déçu de ces deux études qui démontrent que l'hydroxychloroquine aux États-Unis, c'est une étude américaine, non seulement ne se révèle pas aussi efficace, en tout cas c'est loin d'être un médicament miraculeux, et au contraire pourrait même, dans certaines circonstances, être dangereuse. Et aussi cet autre produit au nom difficile à prononcer, mais le Remdesivir, qui avait suscité beaucoup d'espoir, puis une étude chinoise semble démontrer que le médicament du laboratoire Gilead n'est pas aussi efficace qu'on le pensait.
Oui, mais en fait, une leçon à tirer, la première leçon, à mon avis, c'est de ne pas s'emballer de manière démesurée et de ne pas fonder des espoirs démesurés lorsqu'on est en territoire aussi inconnu que le nouveau coronavirus. Mais par ailleurs, il faut quand même rester prudent. On regarde avec des loupes analytiques ces études. On se rend compte que quand même, dans les deux cas, les molécules ont été utilisés chez des patients très malades, avancés. Et c'est là que plusieurs autres chercheurs, y compris Dr Raoult de Marseille, rappellent, avec maintenant beaucoup plus, je dirais, d'humilité qu'avant, là, que c'est sûr qu'une fois que la tempête cytokine, l'espèce d'état inflammatoire intense est installée, qu'une bonne partie des poumons est complètement en charpie, il y a probablement peu de chances qu'avec des médicaments, on puisse guérir le malade. Ils ont besoin de support ventilatoire, ils ont besoin d'autres formes de traitement. Donc, il faut maintenant attendre des études bien faites où l'hydroxychloroquine, mais aussi le remdesivir, ont été étudiés chez des populations qui sont au début de leur maladie, qui ont des formes moins sévères. Et là, on se comprend, là, chez les formes moins sévères, comme les formes moins sévères, la plupart s'améliore spontanément. Avant de dire qu'il y a une différence entre prendre des médicaments et pas prendre des médicaments, il faut des études où on recrute beaucoup de gens.
Ouais.
Il faut une grande force dans l'étude, donc beaucoup, beaucoup de personnes à l'étude avant de montrer une différence.
Ouais.
Le fait que ça, ben, ça va prendre un peu plus de temps à le savoir.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème. C'est que le laboratoire qui fabrique le Remdesivir dit on a eu de bons résultats quand même, pas miraculeux, mais on a eu de bons résultats à l'utilisation de notre produit, de notre médicament, lors de l'éclosion de l'épidémie d'Ebola en Afrique. Mais là, le laboratoire dit l'étude chinoise ne compte pas assez de sujets et elle a été faite trop rapidement pour savoir véritablement si le Remdesivir a un effet direct sur la maladie comme telle. Bref, il manquerait d'échantillons, quoi.
Exactement. C'est un peu le même problème. Ben, il manque d'échantillons, puis il manque des bras de l'étude. Donc, donc, un certain nombre de gens qu'on aurait testés à une phase moins sévère pour distinguer entre la dévastation et la mortalité due à la maladie elle-même versus son inefficacité. La maladie elle-même dans le sens de la pas de la, du virus, mais de la réponse immunitaire. Mais tout ça, ça indique quelque chose. Ça indique qu'on n'aura pas de recette miracle.
Mais non, et malheureusement...
Là, on n'a pas quelque chose sur lequel compter immédiatement, dire, ben là, on sait comment prévenir la mort.
Oui, mais docteur Kadir, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse avoir à tout le moins une médication d'accompagnement sur le long processus de l'arrivée, de l'apparition d'un vaccin. Mais ça, on ne peut pas lutter à main nue là, contre une seconde vague. Vous ajoutez celle de l'influenza qui va s'ajouter à l'hiver. Si on est aussi peu équipé en médicaments pour faire face, ben, ça risque d'être grave.
Il y a quand même une lueur d'espoir. Parce que plusieurs médicaments sont aussi testés comme prévention. Soit ce qu'on appelle une prévention post-exposition, c'est-à-dire arrive un cas dans un centre ou dans un foyer ou dans un ménage, et on donne un médicament préventif, ça peut être l'hydroxychloroquine, ça peut être le calétral, un médicament qu'on utilise contre le sida, qui peut être à ce stade, aux phases précoces, avant que l'infection prenne le dessus, peuvent protéger. Donc ça, c'est à l'étude, puis le Canada participe à ces études-là. Enfin, il y a la possibilité d'utiliser, en tout cas chez les malades les plus mal pris dans nos soins, ce qui fait qu'on a autant de problèmes pourquoi est-ce qu'on a autant de problèmes? Les malades du coronavirus restent longtemps sur les ventilateurs. Leur problème pulmonaire ne se résout pas en quelques jours. Parfois, ça prend 3-4 semaines avant qu'on puisse enlever le respirateur artificiel. Tout ça cause énormément de problèmes. Alors, le sérum convalescent, si on arrive à avoir suffisamment de monde qui en ont guéri et qu'on démontre que les anticorps développés par ces patients peuvent diminuer la sévérité de la maladie de chez ceux et celles qui sont dans les soins, etc., ben ça va constituer quand même des armes redoutables pour nous défendre.
Oui, évidemment. Je regardais aussi l'évolution quand même assez rapide du vaccin d'Oxford, on l'appelle ainsi. On a déjà procédé à l'inoculation des deux premiers volontaires et on dit que ça va se faire en phase accélérée, probablement de 5000 volontaires d'ici l'été. Mais encore là, il faut produire, si jamais il s'avérait efficace et qu'on réussissait dans un temps record, Dr Kadir, à le faire approuver, encore faut-il produire une quantité phénoménale de doses, près de 7 milliards de doses. Ça prend du temps, ça.
Oui. Et là, c'est évidemment, on est inquiet quand on voit le comportement d'un gouvernement comme celui de Trump, qui est capable de voler des masques de manière tout à fait indigne et grossière. C'est sûr que là, ça va présenter un problème, parce que normalement, Si on est dans une situation comme celle que vous décrivez, on va prioriser. On va commencer à vacciner ceux et celles qui travaillent au premier front. On va vacciner les populations les plus à risque, les personnes âgées, les gens qui ont des comorbidités. Donc, on va pouvoir en séquence et en attendant que d'autres vaccins soient produits, on peut prioriser. Mais si on a à faire face avec un comportement comme celui du président des États-Unis,
oui, là, ça poserait problème. Docteur Kadir, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, M. Aude, et bonjour à tous vos auditeurs.
Oui, au revoir. Désolé, la qualité du son était variable, pour voir même plutôt moins bonne. Au retour, la Nouvelle-Zélande. Vous allez me trouver fatiguant, mais j'ai commencé à en parler de la Nouvelle-Zélande déjà il y a à peu près un mois. Pourquoi? Parce que la jeune première ministre, elle n'a que 39 ans, a décidé d'agir et rapidement. Vous le savez, à Ottawa, on a perdu au moins 2 semaines. Quand on fera le bilan de tout ça, à un moment donné, d'ailleurs, il va falloir faire le bilan pour apprendre et non pas dire on passe à autre chose. Mais on a beaucoup trop tardé. Et en Nouvelle-Zélande, on a fermé les frontières dès le mois de février. On a compris qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus, qu'il se transmettait ultra rapidement et qu'il allait faire des ravages. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est deux îles, ou presque, en fait, deux grandes îles. Alors, on a fermé tout simplement les frontières, même si l'économie dépendait du tourisme. Il y a 4 millions de touristes qui vont en Nouvelle-Zélande pour 5 millions d'habitants, ça vous donne une idée. Alors, la jeune première ministre a agi très rapidement et ça a donné des résultats extraordinaires. Encore aujourd'hui, le bilan néo-zélandais est probablement le meilleur. Au nombre d'habitants, 18 décès seulement, 1300 cas, mais 1100 testés qui ont récupéré. Donc, un bilan exceptionnel et nous irons en Nouvelle-Zélande au retour de la pause.